Alors, on poursuit notre série sur Hébreu, commencée il y a 2-3 semaines. On avait vu les trois premiers versets, puis on va voir la suite du chapitre 1, donc des versets 4 à 14. Mais avant, j'ai cette question. Qu'est-ce qui vous fascine? Alors, j'ai regardé quelle était la définition du mot, du verbe fasciner, et j'ai trouvé ceci. Donc, c'est... Alors, il y a plusieurs sens qui peuvent lui être attribués, mais je parle de fascine dans le sens éblouir, captivé par la beauté, l'ascendant, le prestige. Une autre définition, c'est attirer irrésistiblement le regard de quelqu'un. En fait, on est captivé, on est fasciné par ce qui est beau, par ce qui est grand, par ce qui est spectaculaire. En gros, par ce qui nous dépasse. Depuis tout petit, je suis fasciné personnellement par les funambules. Quand j'allais au cirque ou quand je regardais des spectacles de cirque à la télé, de voir ces personnes marcher à une telle hauteur du sol sur un petit fil, un petit câble, j'étais là, mais ouais, c'était vraiment le terme fasciné de se dire wow, comment ils font ça, quoi. C'est quelque chose qui me dépassait totalement. Et il y a quelques années plus tard, en 2015, 2016, ou peut-être plus tôt, il y a un film qui est sorti aussi sur un Français, Philippe Petit, qui a, dans les années 60-70, relié les deux Twin Towers aux États-Unis, les tours jumelles. Et ils ont réussi à mener une opération où ils ont tendu un câble, et puis tôt au matin, il a traversé à une hauteur incroyable, quoi. Et puis on peut entendre, et on entend d'autres histoires de funambules, ceux qui ont traversé les chutes du Niagara. Waouh, c'est juste incroyable. Et pourquoi c'est incroyable pour moi? Parce que moi, je suis incapable de marcher sur un fil, et à cela, vous rajoutez le vertige. Je me sens comme happé par le vide quand je suis au bord d'un précipice. Et voilà, donc c'est des choses qui très certainement se travaillent, mais pour moi, en tout cas, ça me fascine. Je vous pose cette question parce que les lecteurs à qui l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit étaient fascinés. Ils avaient une fascination. Donc les lecteurs, c'était des chrétiens d'origine juive. Il y avait une fascination pour les anges. Pourquoi cette fascination? Parce que c'était les êtres les plus élevés après Dieu. Et ils avaient créé une espèce de hiérarchie. Ils prenaient les anges, dont il est décrit dans la parole, dans l'Ancien Testament, et ils les avaient un petit peu classés un petit peu dans un ordre d'importance. Ils étaient un peu ces intermédiaires entre l'homme et Dieu. Et puis voilà, on les retrouve très régulièrement depuis le livre de la Genèse, depuis la chute, présents avec ces chérubins qui vont garder le jardin d'Éden, ces anges qui apparaissent à ces hommes Abraham, etc. Donc on les retrouve, donc il y avait vraiment cette fascination pour ces êtres qui étaient si élevés. Alors le lien avec ce qu'on a vu précédemment dans Hébreux, chapitre 1, les trois premiers versets, il y a 2 semaines, on a vu Christ qui est supérieur aux prophètes. Et le passage se termine avec le fait qu'il est assis à la droite de Dieu. Donc peut-être que les lecteurs se disaient, attends, le Fils supérieur aux prophètes, assis à la droite de Dieu, certainement l'auteur qui nous écrit cette lettre doit nous parler certainement faire allusion aux anges. Et l'auteur va leur dire, non, c'est pas ça. Moi, je vous parle de quelqu'un qui est supérieur aux anges. Si vous trouvez que les anges sont fascinants, eh bien je vais vous montrer que Christ est de loin bien plus éblouissant, bien plus captivant que les anges. Christ est bien plus beau, Christ est bien plus glorieux, bien plus grand que les anges. Et comme un théorème en mathématiques où on affirme quelque chose, et puis après, on en fait la démonstration par un point A, point un point B, par un point C. C'est ce que l'auteur va faire. Il va dire, dès le verset 4, son affirmation. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges. Dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Dans son affirmation ici, il est en train de dire, en fait, on ne peut même pas comparer Jésus-Christ aux anges, tellement il leur est supérieur. Et ensuite, il va commencer sa démonstration. Ça, c'est son affirmation. Et toute la suite, les versets 5 à 14, vont constituer la démonstration de cette affirmation. Et pour cela, il va utiliser des contrastes. Il va utiliser trois contrastes avec d'un côté le Fils et de l'autre côté les anges. Et il va s'appuyer pour cela sur des passages de l'Ancien Testament. Alors vous verrez, vous les avez peut-être en italique dans vos Bibles. Je les ai remis en italique sur les slides. Et le but de s'appuyer sur l'Ancien Testament, ça va mettre en évidence que Jésus est Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu applique à son Fils, Jésus-Christ, plusieurs de ces passages de l'Ancien Testament qui lui étaient destinés à lui. Et parce que Dieu parle de son Fils en tant que Dieu aussi. Donc si Jésus est Dieu, il est forcément supérieur aux anges. On va regarder ce premier contraste, les versets 5 à 6. Contraste entre le Fils, Jésus-Christ, et les anges. En effet, donc, il va démontrer ce qu'il dit. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci ? Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui pour moi sera un fils. Mais lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit encore que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Premier contraste, premier argument, Jésus, le Fils, est le roi Dieu et les anges doivent l'adorer. Les deux premiers textes qu'il cite sont le psaume 2, le verset 7, et le deuxième passage, c'est dans 2 Samuel, chapitre 7, le verset 14. Et quand on regarde ces deux passages, on est dans le contexte de la royauté. C'était le moment où David allait accéder au trône et où Salomon, son fils, allait ensuite accéder au trône. Il faut savoir que dans le proche Orient ancien, le roi, c'était celui qui avait le rang le plus élevé. Et quand un roi accédait au trône, il était appelé, il recevait le titre de fils de Dieu, car il était considéré comme devenant fils de Dieu par adoption. Alors ça, c'était de manière générale. Alors vous imaginez d'autant plus en Israël, qui est le peuple de Dieu. Le roi d'Israël avait pour mission de représenter Dieu en l'imitant, en faisant pour son royaume, dont il était le roi, ce que Dieu faisait à l'échelle de la terre entière et de l'univers. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament cette notion de fils, il n'y a pas toujours le sens de fils en tant que lien biologique. Mais beaucoup, très souvent, cette notion de fils dans le sens de l'imitation. Le fils faisait le même travail que son papa, que son père. Quand on regarde à la vie, à la royauté de David et de Salomon, on voit que David et Salomon et tous les rois qui ont suivi après eux avaient pour mission d'agir comme Dieu. Et quand on regarde à leur histoire, on se rend compte que ça n'a pas été le cas. Que ça n'a pas été des rois à la hauteur, ils n'ont pas tout accompli de manière parfaite. Et quand on parcourt les lignes du Nouveau Testament, on voit que ce psaume, le psaume 2, est souvent cité pour l'appliquer à Jésus-Christ. Christ a été ce roi par excellence. Jésus est le Fils non pas adopté par Dieu, mais dont Dieu dit de lui, « Tu es mon Fils et je suis pour toi un Père ». il y a une relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils qu'aucun des anges n'a connue avec Dieu. Et quand Dieu s'adresse aux anges, qu'est-ce qu'il leur dit ? Adorez-le. On a ici de nouveau une preuve de la divinité de Christ, parce que Dieu ne peut pas demander d'adorer autre chose, quelqu'un d'autre que lui-même. Donc s'il demande aux anges d'adorer son Fils, Jésus, alors c'est bien que le Fils est Dieu, n'est-ce pas ? Aussi glorieux, aussi lumineux, aussi proche de Dieu que puissent être les anges, ces êtres-là doivent adorer Jésus-Christ, parce qu'il est le roi par excellence. Il est Dieu et il est donc plus grand, plus glorieux, plus majestueux. C'est celui qui a le rang le plus élevé. Il est infiniment supérieur à n'importe quel ange. Dans Apocalypse, au chapitre 19, quand l'apôtre Jean reçoit la révélation de ce qui va advenir, c'est un ange qui lui révèle cela, et on voit l'apôtre Jean qui tombe aux pieds pour adorer cet ange. Et qu'est-ce que cet ange lui dit ? Il lui dit, ne fais pas cela, ne fais pas cela, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Dieu est plus grand que moi, lui dit l'ange. C'est à lui que revient toute la gloire. Parmi les choses qui nous fascinent, il me semble qu'il y a une fascination pour la nature qui peut nous toucher, par laquelle on peut être pris, notamment parce qu'elle peut offrir d'un point de vue médical. On peut observer tout au long de ces dernières années une éclosion de naturopathes, et j'ai juste fait le test, j'ai tapé naturopathe dans Google, naturopathe créé, et j'ai trouvé au moins 12 naturopathes qui pratiquent donc la naturopathie. Et j'ai regardé plus exactement, donc c'est utiliser les éléments naturels, entre parenthèses, donc l'eau, les plantes, l'air, le soleil, pour rester en bonne santé, un traitement médical ne devant intervenir qu'en cas d'urgence. Une autre chose qui nous montre qu'on est fasciné par la nature, c'est parce que la nature nous offre régulièrement des spectacles grandioses. Et il y a des personnes qui sont prêtes et qui passent beaucoup de temps à traverser le monde, à payer des billets d'avion parfois chers pour atteindre des endroits reculés, qui sont prêts à faire des heures de marche, à souffrir physiquement pour monter des dénivelés, pour accéder à un moment donné à un panorama spectaculaire, des paysages paradisiaques à en couper le souffle. Et je crois qu'on doit bien l'avouer, on est gâté dans cette région de la Drôme, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir le privilège de contempler régulièrement des choses magnifiques. Et en discutant régulièrement avec plusieurs personnes, c'est rare qu'au cours d'un mois, je n'ai pas entendu une fois parler des trois becs dans une conversation. Et c'est évident, il n'y a rien de mal à tout cela parce que la nature est belle. Et oui, la nature a quelque chose de fascinante. Mais j'ai parfois l'impression, je me dis que si la nature pouvait s'exprimer, pouvait parler, est-ce qu'elle ne nous dirait pas, de temps en temps, ne nous adorez pas, nous, mais adorez Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui est bien plus grand que nous. Et vous savez, je me suis posé cette question, pourquoi finalement est-ce qu'on est fasciné par ce qui est beau, par ce qui est grand, par ce qui est spectaculaire ? Et je crois que pour ça, il faut juste revenir à ce qu'on vivait au moment où Dieu nous a créés. On était dans cette relation avec Dieu qui est juste magnifique, qui est grandiose, qui est spectaculaire. Et depuis que cette relation s'est abîmée, s'est cassée, on est dans cette quête, dans cette recherche. Et c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse être fasciné par tant de paysages, être fasciné par toutes ces choses que la nature offre et tous ces bienfaits qu'on peut trouver dans les plantes, dans l'eau, dans notre besoin de soleil, etc. Parce qu'on était originellement dans cette relation avec celui qui était le tout beau, le tout grand, le tout spectaculaire. Deuxième argument, les versets 7 à 12. Deuxième contraste. Au sujet des anges, il dit « Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. » Mais, au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu détestes le mal. Aussi, ô Dieu, ton Dieu, a fait de toi un roi, en répandant sur toi une huile d'allégresse, te préférant ainsi à tous tes compagnons. » Il dit aussi, « C'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit, comme un manteau, tu les enrouleras, comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. » Deuxième contraste, Jésus est le roi éternel et les anges sont créés par lui. On est toujours dans ce thème de la royauté. Si vous regardez les versets 8, les versets 9, on a trône, sceptre, règne, roi. Mais ce qui ressort ici de manière particulière, c'est l'attribut, une qualité que le Fils a. Et cet attribut, c'est le fait qu'il est éternel. Regardez le verset 8. « Ton trône subsiste pour toute éternité. » Verset 11. « Mais toi, tu subsistes. » Et verset 12. « Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. » Il y a une comparaison entre le Fils, qui est le Créateur éternel, qui était déjà là au commencement, qui reste le même et qui ne finira pas, qui n'aura pas de fin. Et on peut parler de l'immuabilité, le fait que Dieu ne change pas, que Christ ne change pas. Et la comparaison avec toute la précarité de la création qui s'use, qui s'abîme petit à petit, qui dépérit et qui un jour sera renouvelée. Un peu plus loin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au chapitre 13, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et ici, Jésus-Christ est supérieur aux anges parce qu'il existe bien avant les anges, puisqu'il n'a ni commencement. Et les anges sont des êtres créés. Ils ont été créés selon les besoins de Dieu. Tu fais d'eux du vent, tu fais d'eux des flammes de feu. Et ces anges donc les obéissent à Dieu et agissent comme des instruments entre ses mains, tantôt dans un but, tantôt dans un autre. Est-ce que vous êtes déjà revenu à un endroit où vous êtes passé il y a longtemps et vous regardez cet endroit et vous vous dites « Waouh, ça a changé ». J'ai vécu cette expérience il y a quelques années de cela en revenant dans un village où j'ai grandi et le changement, plein de nouvelles constructions et on reconnaît certaines choses mais ça a tellement changé. Mais s'il y a bien une chose qui semble peu changer, c'est le ciel et les étoiles. Il y a fort à parier que le ciel devait être assez semblable au ciel que devait contempler Abraham, que devait contempler David ou même Jean-Baptiste. Pourtant, nous dit ce texte, nous dit ce passage, même ce qui paraît le moins changeant à nos yeux est quand même en train de s'user. Tout ce qui nous entoure est voué à disparaître. Et cela met en relief la fragilité de notre monde, n'est-ce pas ? Notre fragilité. Notre chose par laquelle nous sommes fascinés, c'est bien une fascination pour la vie. Pourquoi ? Parce que nous avons été créés pour vivre. Quand on fête chaque année les anniversaires, on célèbre la naissance, n'est-ce pas ? Quand on pense à la mort, on sait qu'elle est et qu'elle restera toujours quelque chose d'anormal. Nous n'avons pas envie de mourir. Nous n'avons pas envie de souffrir. Il suffit de regarder aussi un petit peu le nombre de films qui traitent de la quête de l'immortalité. Le rêve de beaucoup, n'est-ce pas? Et cette question, est-ce qu'il est possible de stopper notre vieillissement? Et tout est bon dans ce sens-là. Si on peut créer des choses, on peut trouver de nouvelles solutions pour prolonger notre vie ou pour nous éviter de souffrir. Alors forcément, et c'est normal, on fait attention à notre alimentation. On voit les biologistes, les chercheurs qui passent des heures et des heures de recherche pour développer des traitements, pour soigner des maladies qui restent pour l'instant incurables. On fait du sport, on fait de l'exercice pour s'entretenir. On achète peut-être des crèmes pour retarder l'apparition des rides. Et puis même quand on pense un petit peu au divertissement sous toutes ses formes, est-ce que finalement ce n'est pas un petit peu une forme d'échappatoire à la réalité? Parce que quand je suis en train de me divertir, ça m'évite de me retrouver face à moi-même, face à ma finitude, et de penser à la mort. Nous sommes fascinés par la vie. Là encore, c'est incroyable de voir le nombre de médiums, le nombre de voyants, le nombre de guérisseurs en tout genre. Là aussi, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai fait un petit peu dans le cadre de mon mémoire. Et vous tapez un petit peu ces termes, et c'est incroyable aussi sur Cré de voir la quantité de ces métiers. Et j'ai envie de dire, s'ils connaissent malheureusement un tel succès, c'est bien parce qu'on n'a pas encore trouvé de remède contre la mort et contre la souffrance. Ces choses-là font encore partie de notre quotidien. Et quand je dis malheureusement parce que ces personnes sont en général en lien avec des puissances spirituelles qui sont opposées à Dieu et qui entraînent souvent des conséquences malheureuses dans la vie des personnes qui les consultent. Oui, nous sommes fascinés par la vie. Oui, nous sommes en quête d'éternité. De la même manière qu'un tuyau ne peut pas produire de l'eau tout seul, mais qu'il a besoin d'être connecté à un robinet, la seule solution à notre quête de l'éternité consiste à nous connecter à celui qui est éternel, à celui qui n'a ni commencement, ni fin, qui ne change pas. Jésus-Christ, le roi éternel. Alors ce n'est pas la garantie d'échapper à la souffrance, ce n'est pas la garantie d'échapper à la mort physique sur cette terre, mais c'est l'assurance certaine que la mort physique ne constitue pas la fin de l'histoire et qu'une vie nouvelle et éternelle est à venir. Troisième argument et dernier argument et contraste, les versets 13 et 14. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds ?» En effet, que sont les anges? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. Troisième et dernier contraste, Jésus est le roi victorieux et les anges le servent. On retrouve ici l'expression qu'on a vue dans les trois premiers versets, le fait que Jésus, le Fils, est assis à la droite de Dieu. Et on le rencontrera encore dans le courant, la suite du livre d'Hébreux. La réponse à la question que pose l'auteur est clairement sous-entendue. Dieu n'a jamais invité aucun des anges à s'asseoir à sa droite. Seul le Fils a ce privilège. Parce que siéger à la droite de Dieu, c'est une position royale. C'est une position d'autorité. C'est une position d'honneur. Et cela signifie, et on en a parlé il y a 2 semaines, je vous invite à réécouter si vous n'étiez pas là, que tout a été accompli pour notre salut. Christ est celui qui, à la croix, a remporté la victoire sur tous ses ennemis, la victoire sur le mal, la victoire sur Satan et ses sbires, la victoire sur le péché, la victoire sur la mort et bien d'autres choses encore. Et cette image des ennemis que Dieu a placés sous les pieds de Christ comme un escabeau, comme un marchepied, est empruntée à l'époque où le roi vainqueur affirmait sa victoire et sa domination en posant son pied sur la nuque de son ennemi qui était à terre et qui était vaincu. Le contraste est établi donc entre le Fils qui est assis sur le trône, qui règne, qui a toute autorité et toute puissance, qui domine sur toute chose, y compris ses ennemis, et les anges qui, eux, sont debout, en service, en mouvement, en mission auprès de ceux qui vont bénéficier du salut. Encore un domaine qui peut-être nous fascine, la quête de sécurité. Il y a quelques années de cela, on a été cambriolé quand on habitait à Marseille. Et il n'y a rien de pire que le sentiment d'insécurité. On dormait moins bien, on s'inquiétait au moindre bruit, la moindre ombre le soir qui bougeait. On allait regarder, c'était juste la branche de platane. Mais on s'inquiétait. On commence à se faire un petit peu des films. Alors, j'ai commencé à me pencher sur l'étude, à étudier un petit peu quels sont les systèmes d'alarme qui sont à notre disposition, parce que c'est bien connu, on commence à acheter une alarme le jour où on a été cambriolé. Et puis, un jour arrive où, quand on est chez nous, quelqu'un a essayé de rentrer pendant qu'on était là. Et puis, on nous a cassé la voiture, de nouveau en étant présent dans la maison. La voiture était sur la propriété. Et là, la tension est tellement forte qu'on n'a pas eu d'autre solution que de déménager, de changer de quartier. Nous avons un énorme besoin de sécurité. Pourquoi est-ce que je mets un casque pour la moto, ou pour faire du vélo, ou pour faire du ski? Pourquoi est-ce que je mets la ceinture quand je suis en voiture ou dans l'avion? Pourquoi est-ce que j'équipe ma maison ou ma voiture d'une alarme? Parce qu'il y a un lien avec ce qu'on a partagé et dit précédemment dans le point d'avant. Nous aimons la vie, nous y sommes attachés. Tout ce qui est le stress, tout ce qui est l'angoisse, tout ce qui est la peur, tout ce qui est l'inquiétude, l'insécurité, sont aussi, comme la mort, des anormalités de la vie. Cette épître était destinée à des chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Et peut-être qu'ils avaient cette fascination pour ces anges qu'ils pensaient capables de les garder, capables d'assurer quelque part leur sécurité. Mais l'auteur leur rappelle, vous n'avez rien à craindre, non pas grâce aux anges, mais grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui a le pied posé sur la nuque de tous ses ennemis, à celui qui est le victorieux. Christ est celui qui nous garde et nous gardera encore. Parce qu'il a vaincu tous ses ennemis, nous sommes, de manière ultime, en sécurité si nous lui avons confié nos vies. Et cela, quoi qu'il advienne, quoi qu'il puisse advenir ici-bas. Et de nouveau, on peut se poser cette question. D'où vient cette fascination pour la vie, cette quête de l'éternité, cette quête de la sécurité qui nous ramène de nouveau à notre condition d'être créé par Dieu, de ce qui s'est passé à l'origine en Éden. On était en présence de ce grand Dieu qui était la vie, qui nous a donné la vie. On était en présence de ce grand Dieu qui nous apportait toute la sécurité dont nous avons besoin. Et depuis qu'on s'est séparé de lui, on est en quête de ces choses-là, n'est-ce pas ? Je conclus. Jésus-Christ est supérieur aux anges parce qu'il est le roi Dieu. Il est le seul qui doit être adoré. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, dans un temps de louange et d'adoration. Jésus-Christ est supérieur aux anges parce qu'il est le roi éternel. Il est le seul qui puisse m'offrir la vie éternelle. Jésus-Christ est supérieur aux anges parce qu'il est le roi victorieux. Il est le seul qui puisse me garantir la sécurité. Amen.